Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir l'autrice espagnole Edurne Portela. Edurne Portela, bonjour.
Hola, buenos días.
Vos propos seront interprétés par Gisèle Effron. Edurne Portela, vous êtes originaire du Pays Basque espagnol. Vous avez longtemps résidé et enseigné aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous êtes de retour en Europe. Et si nous avons la chance de vous recevoir sur France Culture, c'est à l'occasion de la parution du roman « Madi », traduit de l'espagnol par Marianne Millon, aux éditions Liana Levy. Madi, c'est un roman de frontières, un roman dans les frontières, autour de ce personnage unique qu'est Madi, Maria Josefa Sansbero, dite Madi, un roman exceptionnel pour sa facture, mais aussi parce que sa protagoniste est unique. Un roman historique, parce que cette protagoniste est un personnage historique, mais avant tout un roman parce qu'il a fallu, dites-vous, imaginer Madi, remplir par l'imagination les vides laissés par les documents. Edurne Portela, comment avez-vous rencontré Madi? Ou plutôt, comment Madi est-elle venue à vous?
C'est
une question tout à fait pertinente, parce que moi, j'ai retrouvé Madi grâce à un cadeau. Le cadeau que m'ont fait deux personnes, qui sont devenues deux personnes très chères, à partir d'une archive qu'ils ont étudiée pendant 6 ans. Et à tout hasard, ils ont retrouvé le nom de Maria Josefa Sansbero dans une archive qui avait très justement la déportation vers des camps de concentration nazis du Pays Basque français. Et ils ont trouvé le nom de cette femme de ce village qui est Oriartzun, et ils ont passé 6 années à suivre la piste de sa vie avec les archives de la paroisse, les archives civiles, jusqu'aux archives de la résistance et la déportation. Quand ils ont épuisé la recherche, ils ont voulu trouver une personne pour raconter son histoire et ils ont pensé à moi.
C'est-à-dire qu'ils vous ont communiqué ces documents ou est-ce qu'ils vous ont d'abord raconté l'histoire et vous ont dit est-ce que ça pourrait vous intéresser d'écrire le récit de la vie de Madi?
Oui, une de ces personnes, José Mari, m'a appelé et m'a dit « j'ai une histoire merveilleuse ». Et donc, il m'a résumé en une petite demi-heure l'histoire de Madi. Et il m'a dit que tout ce qu'il m'avait raconté était en fait accompagné par une archive historique. Et donc moi j'étais captivée d'emblée par l'histoire de cette femme. Et ensuite j'ai trouvé que c'était un vrai défi que d'avoir entre mes mains cette archive et voir ce qu'on pouvait raconter à partir de ces documents.
Alors pour résumer très rapidement, ensuite on va rentrer dans les détails. Donc Maria Josefa alias Madi s'installe au Pays Basque français depuis son Pays Basque espagnol. Elle finit par devenir la gérante plus ou moins d'un hôtel tout près de la Rune, presque sur la frontière entre la France et l'Espagne. Et puis, en 1944, elle finira déportée dans divers camps de concentration allemands où elle mourra. Qu'est-ce qui vous a attiré d'abord dans cette histoire ?
On peut penser que la première chose qui attire au début, c'est toute la question de sa participation dans la résistance, sa déportation, donc sa vie plutôt publique ou politique. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressée, c'était d'essayer de comprendre qui était cette femme avant de prendre ses décisions. Et je me rends compte que dans cette archive, on dit que cette femme a des origines très humbles, rurales, catholiques. Elle est divorcée en 1928. Et donc, on voyait bien qu'il y avait tout un caractère et une volonté de vivre chez elle, une vie propre. Donc, les peu de choses que racontait l'archive donnaient lieu à beaucoup d'imagination concernant cette femme qui a dû être fascinante, surtout tenant compte des temps qu'elle vivait.
Edurne Portela, le roman s'ouvre d'abord par un préambule dans lequel c'est justement Madi, donc Maria Josefa, qui s'adresse à nous, ou à vous plutôt, et qui vous donne des consignes pour écrire son histoire. Parce que la particularité de ce récit, donc de Madi, c'est d'être écrit à la première personne. C'est-à-dire que vous avez imaginé les pensées, la vie de Madi, presque à sa place. Vous avez reconstitué, à partir des documents, la vie d'un personnage. Est-ce que ça a été une décision immédiate ou au contraire, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation à ce sujet ?
Il y a eu beaucoup d'hésitations. Surtout concernant les implications éthiques qu'implique de prendre la voix d'une personne qui a vraiment vécu. Donc moi, j'ai passé de longs mois à regarder cette archive en lisant tout le contexte historique, donc beaucoup de livres d'histoire, et en me demandant comment raconter cette histoire. Mais ce qui m'attirait surtout, c'était ce que je ne voyais pas sur le papier. C'est-à-dire toute la dimension intérieure, toute la dimension subjective de ce que cette femme était. Donc la seule manière de pénétrer là, pour revivre la vie de cette personne, c'était par le biais d'un exercice très radical, qui, comme vous savez, c'est la première personne, parce qu'il est vrai que ça limite un peu le point de vue, mais en même temps, ça donne lieu à une profondeur et à une exploration, aussi par le biais du langage, de la création du langage, qui pour moi était très intéressante grâce à tout ce que je pouvais découvrir à partir de ce que moi je considère que cette femme a pu être. Donc quand moi je me suis mise dans ce rôle, j'ai encore ce doute qui me parle à l'oreille. Et à ce moment-là, j'imagine Mali qui me parle d'un autre plan, d'un autre niveau, et elle me dit « attention avec ce que tu imagines, parce que même si tu imagines beaucoup de choses, tu ne pourras pas tout imaginer. » Surtout la dernière partie de sa vie qui a trait à une expérience limite et incompréhensible pour celui qui ne l'a pas vécue, comme peut l'être la déportation et le camp
de concentration. Oui, on y viendra parce que c'est la dernière partie du récit. Mais il n'y a pas eu de moment de retour en arrière. Est-ce que vous avez fait des essais dans l'écriture, justement, à la troisième personne? Est-ce qu'il y a des brouillons où vous commencez à raconter cette histoire d'une autre façon?
Oui et non, parce que au début, j'ai pensé à faire un genre de biographie historique en le combinant avec l'essai, parce que c'est un genre qui m'intéressait aussi. Le premier livre que j'ai publié en Espagne, c'est un essai sur un ton et une façon d'approcher la réflexion assez peculier. Ce n'est pas un essai pur, c'est aussi un essai autobiographique. Et donc, je me suis dit que peut-être une biographie historique avec un point de vue personnel sur ce que veut dire ce personnage ou cette femme, voilà, je me suis dit que c'était viable aussi. Donc j'ai démarré comme ça, mais ensuite l'imagination a pris le pas. Et je voulais vraiment essayer de me mettre dans son point de vue à elle et l'accompagner dans ses décisions vitales pour essayer de la comprendre. Et avec une biographie historique telle qu'on pouvait l'écrire à la troisième personne, et aussi avec un certain désir d'objectivité, c'était impossible. Donc j'ai écarté cette alternative au bout de 20 ou 30 pages.
Mais Diurné Portela, vous êtes aussi essayiste, spécialiste de littérature, donc vous voyez bien ce qu'il y avait dans ce choix de la première personne aussi de provocateur un peu hein, vis-à-vis de ce qui peut être considéré comme le bien ou le mal dans la création littéraire aujourd'hui. Vous avez choisi d'aller à l'encontre d'énormément d'auteurs, de principes qui disent non, ce qui est historique, il ne faut surtout pas justement essayer de combler les vides, hein, mais au contraire de les laisser apparents.
Oui, absolument. C'est quelque chose que j'ai même défendu. L'histoire, c'est l'histoire et les vides, il faut les respecter. Mais moi, je ne fais pas d'histoire. Je ne suis pas en train de faire de l'histoire, mais de la fiction à partir de documents que je respecte. Parce que, évidemment, une des questions que je me posais avec l'écriture en première personne, c'était de garder un équilibre entre le respect par rapport à ce que je considère être une vérité historique, qui est contenue dans l'archive et dans les études exhaustives de l'époque et de ce territoire. Donc garder l'équilibre entre ça et aussi les exigences de la fiction. Donc le processus d'écriture a été une lutte constante avec la tension que ça engendre. Et toujours en tenant compte d'un principe éthique, hein, qui est que même si la fiction et l'imagination me tiraillaient vers un côté, je ne pouvais jamais aller à l'encontre de ce que moi je pensais qui était la vérité, ou en tout cas prouvé par la documentation et l'archive. Donc, devant cette critique, ma réponse serait celle-là. Je pense qu'on a le droit d'entrer dans ce passé en faisant un exercice d'imagination historique, qui est celui que j'ai fait, mais sans vouloir que ça remplace l'histoire en tant que discipline et forme de connaissance.
Alors donc le roman s'ouvre à la première personne, nous voyons Maddy et Louis s'installer dans un hôtel tout neuf à quelques kilomètres de Sarre, petit village du Pays Basque dans la montagne, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, à l'arrivée du chemin de fer de la Rune au col de Saint-Ignace. Est-ce que ces lieux existent encore? Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous les connaissez? À quoi ressemble cet hôtel aujourd'hui, Edurne Portela?
Oui, il existe, le train existe, et peut-être nos auditeurs sont montés, on était dans ce petit train crémaillère à Montélégon, et il y a encore l'hôtel, il existe bien, mais j'étais vraiment très déçue parce que j'avais vu des photos historiques, j'avais vu l'architecture du petit hôtel, et je suis arrivée, c'était l'été, il y avait beaucoup de gens, il y avait des affiches qui annonçaient des hot dogs, de la bière, donc vraiment il a perdu de son charme, le moment a perdu de son charme. Mais bon, il a fallu que je fasse un exercice d'imagination pour le transformer en ce qu'il avait été. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est intact, qui est la chapelle de Saint-Ignace. C'est une chapelle qui donne le dos au monde, donc il faut vraiment faire le tour et entrer un petit peu pour voir le saint. Et là, je pense qu'il est facile de s'imaginer Maddy en prière et en visitant son saint favori.
Alors Maddy n'est pas originaire de Sarre ni des villages alentours. Elle vient d'Oyarsun, qui est un tout petit peu plus loin de l'autre côté de la frontière. Et vous avez choisi de raconter le livre chronologiquement, donc à la première personne, mais en commençant justement bien avant les faits liés à la Seconde Guerre mondiale, au moment où Maddy et Louis s'installent dans cet hôtel et où un enfant va y naître dans des circonstances absolument rocambolesques, d'une jeune femme qui apparaît comme ça une nuit plutôt, très enceinte, et qui vient là pour accoucher sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et là, on se demande, mais comment est-ce que ça apparaissait dans les archives, justement? Où se trouve l'imagination d'Edurne Portela? Comment est-ce que, dans une archive historique, on peut vous dire, ah oui, alors, une femme très enceinte est arrivée à 6h du soir pour accoucher, puisque c'est un des personnages clés du roman, qui serait le fils adoptif entre guillemets de Maddy et Louis, Lucien, qui va naître là, mais dans des circonstances qui justement s'apparentent tellement au roman qu'on a peine à croire qu'elle puisse être comme ça, sortir directement d'une archive historique.
L'archive historique ne dit qu'en 1930 est né un enfant à l'hôtel. On ne dit pas qui est le père, on ne dit pas qui est la mère, et 7 mois plus tard, Louis adopte l'enfant. Non, il le reconnaît plutôt. Et 8 années plus tard, on retrouve un document sur lequel Maddy reconnaît l'enfant. Donc, Maddy est une femme divorcée qui n'a pas eu d'enfant. Si elle avait voulu avoir des enfants, elle aurait pu adopter immédiatement l'enfant. S'il avait été sien, elle l'aurait reconnu comme propre. Mais personne ne se souvenait de Maddy enceinte. Donc, avec ces informations, comment explique-t-on l'apparition de cet enfant? Et voilà, l'imagination d'Edurne Portela prend son envol. Et donc, j'essaye d'imaginer un scénario possible. Une femme qui arrive, qui accouche, mais personne n'est capable de prouver que c'est elle la mère, ni qui est le père. Donc, c'est une situation qu'il faut bien imaginer. Il est impossible d'avoir plus d'informations sur cet événement. Et puisqu'ils ont laissé passer un laps de temps pour reconnaître l'enfant, aussi bien de la part du père que de la mère adoptive, eux deux n'avaient pas une responsabilité sur l'enfant, c'était plutôt un acte d'accueil.
Il faut préciser, et d'en importer là, que Maddy et Louis ne sont pas un couple, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, mais a priori n'ont pas de relation amoureuse ou maritale. Ils sont l'un avec l'autre dans la gestion de cet hôtel. En tout cas, c'est ce que vous nous en dites.
Oui, parce que la reconnaissance de l'enfant de la part de Maddy 8 ans après coïncide avec le mariage avec Louis 8 ans après. Donc, dans une société comme celle-là, aussi conservatrice, catholique, j'imagine que s'il y avait eu une relation de couple, ils auraient fait ce pas bien avant. dont la tentation aurait été de les faire des amants. Ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble à l'hôtel, mais pour une question d'intuition ou pour aller contre le courant, je n'ai pas voulu faire de Mahdi une femme aussi dépendante de l'amour ou des rapports personnels. J'ai voulu l'imaginer plutôt comme une femme qui avait d'autres objectifs dans la vie et pour qui la structure du mariage, à l'époque, ne faisait que lui couper les ailes vis-à-vis de cet élan qu'elle avait de mener une vie différente de ce qu'on attendait d'une femme comme elle. Donc, je n'avais pas envie qu'elle ait une relation sentimentale. Je voulais lui donner de la place pour qu'elle vive la vie autrement. Et bien entendu, l'imagination entre en jeu parce que rien ne prouve que c'était son désir.
Mais justement, parce que ce personnage de Mahdi devient une femme extrêmement forte, puissante, qui prend son destin en main, le sien et celui des autres, qui aide. Même sa relation avec cet enfant, Lucien, n'est pas totalement maternelle. C'est elle-même qui le dit dans le roman. Elle ne se sent pas complètement la mère de Lucien. Elle va développer, on va le voir, toute une activité professionnelle autour de l'hôtel, de la contrebande, de ces relations justement entre le Pays basque français et espagnol. Et vous en faites une femme dont le destin, même en tant que tel, est absolument passionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi un roman sur un personnage féminin extraordinaire.
Si,
oui, les rapports qu'elle établit avec, par exemple, Lucien, c'est une relation d'affect. Elle l'appelle petite puce, elle prend soin de lui, elle le protège, mais en même temps, elle est consciente que ce n'était pas son désir que d'être mère, ce n'était pas sa vocation que de se consacrer aux soins d'une famille, même si c'était une femme capable de beaucoup d'amour. Mais non seulement d'amour vis-à-vis des siens, mais aussi vis-à-vis d'autres qui avaient besoin d'elle, comme par exemple les réfugiés qui doivent traverser la frontière de l'Espagne en France quand la guerre espagnole éclate, ou même après, avec tous les évadés, les gens qui ont fui et qui passent par son hôtel, et donc entre ses mains, dont elle prend soin. Donc pour moi, c'était un personnage fascinant depuis le début, parce qu'on voyait les possibilités d'explorer un type d'amour vis-à-vis des autres et de soins des autres qui ne correspond pas à ce qu'on pense être traditionnellement le rôle de la femme, surtout à l'époque, et sa capacité de se consacrer aux autres, de se sacrifier pour les autres, elle va au-delà des limites du privé. Et moi, je pense que c'est quelque chose dont on pense peu et qu'on explore peu. Le fait qu'une femme qui n'est pas maternelle dans le sens traditionnel du terme est toujours conçue quand même comme une femme égoïste ou une femme, notamment une femme de l'époque, qui agit dans l'espace public et est toujours une femme suspecte d'être trop indépendante, trop égoïste ou, dans le cas de notre personnage, une femme stigmatisée. Donc, je pense que c'est surtout un roman d'un personnage féminin et d'une femme d'une classe sociale qui, normalement, n'est pas représentée dans le récit de l'histoire parce qu'elle n'arrive jamais aux archives. Des femmes de l'époque, des femmes qui brillent à l'époque, elles appartiennent à une autre classe sociale.
Oui, d'ailleurs, on voit bien qu'arriver à ses responsabilités dans l'hôtel, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que c'est possible parce que quand même, il y a un homme qui est Louis, qui est officiellement un peu le directeur, pour le dire de cette façon, de l'hôtel. On voit aussi dans ses relations avec le catholicisme, par exemple, ces scènes d'humiliation à l'église, parce qu'on lui refuse la communion, parce qu'elle est divorcée, qu'elle doit un peu se réinventer aussi une foi très, très personnel et une relation justement avec ce saint, par exemple, dont nous avons parlé tout à l'heure. Bref, qu'elle est dans une position extrêmement inconfortable dans la société qui représente bien justement cette position de l'hôtel un peu entre deux pays, entre deux mondes. On pense que tout pourrait basculer ou d'un côté ou de l'autre de ces frontières. Une position très fragile quand même.
Oui, c'est une position fragile et qui l'expose beaucoup à la honte publique. Comme elle le dit si bien, elle travaille, elle mène l'hôtel de l'avant et elle participe à la contrebande, ce qui est naturel dans la région, mais c'est naturel pour les hommes, chez les hommes et pas chez les femmes. Et donc ça reste dans les légendes sur elle. Au village, elle organise des bals à l'hôtel où les jeunes vont très allègrement parce qu'ils sont loin des regards de leurs aînés. Et donc elle s'expose à l'église quand elle veut prendre la communion tout en sachant qu'on la lui refusera. Et même comme ça, c'est une femme profondément religieuse avec un regard du social. En tout cas, c'est la façon dont je l'imagine. En partie aussi conservatrice, mais en même temps, due à cette vulnérabilité qu'elle a, parce qu'on l'a exposée à la honte publique, elle est sensible, particulièrement sensible à la douleur et aux besoins des autres. Quand parfois il arrive avec des personnes qui ont subi une violence sur elles-mêmes, qui ont une empathie vis-à-vis de ceux qui souffrent ou qui sont des victimes d'autres violences. Et l'enclave dans laquelle elle se trouve, qui pourrait effectivement être soit au Pays basque français, soit au Pays basque espagnol, c'est un espace totalement fluide. C'est aussi un espace qui paraît naturel, presque vide, parce que tout est nature. Mais c'est un espace avec une charge historique, avec une richesse historique incroyable. Et moi, je pense que l'histoire de Mahdi est très représentative de cette richesse historique.
Et de cette histoire des années 30, puisque donc les années de l'hôtel de Mahdi, c'est à peu près de 1930 à 1944, donc ce sont les années tragiques du XXe siècle, d'un côté de la frontière comme de l'autre, c'est-à-dire que ça commence d'abord dès 1934 avec les répressions en Asturie, par déjà ce premier contact avec la violence quasi de guerre, puis la guerre d'Espagne, puis la Seconde Guerre mondiale, la défaite de la France, l'occupation allemande. Donc Mahdi raconte aussi ces années-là, c'est-à-dire que c'est la tragédie espagnole, française et européenne vue depuis un point minuscule entre les deux pays.
Si, est-ce que, claro, cuando pensamos en estos años,
quand on pense à ces années si traumatiques, si complexes, parfois, en tout cas moi, c'est ce qui m'arrive quand j'étudie cette histoire, c'est si monumental qu'il est très difficile à imaginer la vie privée des gens et comment ces vies privées et intimes sont totalement traversées par l'histoire et parfois détruites par l'histoire. Et pour moi, Mahdi, comme elle le dit si bien, elle représente en une seule personne, avec tout ce contexte évidemment, mais en tout cas elle représente toutes ces années traumatisantes et terribles, et elle les représente du point de vue d'une femme qui finit par être victime du fascisme et du nazisme, mais qui a été aussi un agent actif de l'histoire et qui a contribué à sauver des vies et à imprimer un tour à l'histoire, parce qu'elle ne survit pas, mais beaucoup de personnes qu'elle a sauvées ont survécu et elles ont pu contribuer à l'histoire et la raconter. Donc, dans ce sens, je pense que c'est une histoire très représentative et en même temps très méconnue aussi, justement comme je disais tout à l'heure, parce que l'activité des femmes comme elle, en général, elle ne nous arrive pas parce qu'elle n'est pas contenue dans les archives historiques. Et même si elle l'est, si elle est contenue dans les archives historiques, elles n'ont pas été les protagonistes du récit historique.
La tragédie, c'est que Mahdi sera arrêté quand le réseau de résistance à laquelle elle appartient tombera. Réseau qui va depuis Bordeaux à Bayonne jusque donc au fin fond du Pays Basque, au bord de la Rune. Elle sera arrêtée, torturée, détenue et déportée dans plusieurs camps allemands. Et là, Edurne Portella, pour vous, c'est un autre défi pour l'autrice. Ça devient un récit de déportation. Et j'imagine, puisqu'on le voit dans le texte, d'ailleurs à la fin, que là, imaginer devient extrêmement compliqué.
Muchísimo.
Extrêmement. Parce que comment peut-on imaginer et comment peut-on traduire dans le langage à la première personne, un récit qui est si éloigné de ma propre expérience. Pour moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Ça fait de nombreuses années que je lis surtout des témoignages de l'expérience de la déportation et c'est une connaissance qui m'a aidée à établir ces bases pour l'imagination. Mais ensuite, même s'il était très difficile, ça m'a quand même aidé de parler à la première personne. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit d'un récit chronologique. Donc moi, je l'ai écrit tel quel, chronologiquement. Et donc, je me suis mise dans la peau de Maddy depuis son arrivée à l'hôtel, heureuse avec toute une vie devant. Et j'ai évolué avec elle quand sa vie a commencé à se compliquer avec la contrebande, avec la guerre en Espagne. Et donc, j'ai vécu avec elle ces 4 années dans lesquelles elle a travaillé pour la résistance en même temps que l'hôtel était occupé par les nazis. Donc, l'usure, la peur, l'incertitude, tous ces sentiments que j'essaye de développer avec la voix de Maddy me préparent petit à petit, parce que je sais que ça va arriver, me préparent au moment où la Gestapo l'arrête, le moment qu'elle monte dans le train de la déportation, le train fantôme, et le moment où elle commence son périple par les camps de concentration. Donc moi, d'une certaine façon, peut-être un peu éloignée, mais je sens quand même la façon dont son corps commence à se décomposer, la façon dont sa tête commence à se décomposer et comment ça décompose aussi sa vision de la réalité et son langage. Donc, quand j'arrive au moment où son langage commence à se briser, je sens déjà cette rupture et ce besoin de fuir par le biais de l'imagination de cette horreur. Et donc, je crée l'ambiance qui l'entoure à travers cette décomposition. Donc, c'est un processus qui est pour moi très dur et qui laisse une trace sur moi, sur mon esprit, sur mon imagination surtout. Mais pour moi, c'était la seule façon d'entrer là, essayer de me soumettre à cet exercice d'imagination de la façon la plus radicale possible.
Et Diorné Portella, dans le prologue du livre, vous faites dire à Maddy, qui s'adresse donc à vous, « N'invente pas trop, n'imagine pas trop. » Ce à quoi vous ajoutez « trop, ce ne sera jamais assez ». Mais est-ce que la littérature reste toujours un peu en deçà du réel? Est-ce que le roman échoue forcément à Diorné Portella?
Je crois que si.
Je pense que oui.
Surtout
dans un cas comme celui-ci, Jorge Semprún le disait, même si on a de bonnes intentions, on ne réussira jamais à imaginer ce qu'est l'expérience concentrationnaire. Donc pour moi, cet immense saut qu'il y a entre ce que je peux imaginer et ce que Maddy a vécu veut dire l'échec du roman, l'échec du langage, l'échec de l'imagination. Mais cet échec est néanmoins nécessaire parce que deviendrons-nous, que deviendrais-je si j'avais pu imaginer de façon absolument exacte ce qu'a souffert Maddy? Je n'aurais pas moi-même survécu à l'écriture. Donc je pense que la seule chose que nous pouvons faire avec les outils et le talent qu'on peut avoir, c'est d'essayer de comprendre ces expériences incompréhensibles et les transmettre de la façon la plus honnête possible, sans vouloir que le roman soit capable de représenter la réalité exactement. Mais bon, aussi, ça nous représente nous-mêmes et nos limites.
Merci beaucoup, Edurne Portella, d'être venu jusqu'à nous. Et merci à Gisèle Effron d'avoir interprété vos propos. Je rappelle que Maddy, traduit de l'espagnol par Marianne Mignon, est paru aux éditions Liana Levy. L'entretien littéraire est réalisé par Laure-Hélène Planchet, avec Mélodie Hesman à la technique aujourd'hui. Merci au indispensable Aurélie Marsay qui m'aidait à préparer cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez nous réécouter ou même podcaster tous les épisodes de l'entretien littéraire sur le site de France Culture ou l'application mobile de Radio France.